Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Adrien Vieillet, salarié de l'association Machin Machine qui officie dans l'espace de coworking l'atelier 3 places du marché et qui donne dans l'impression 3D. Bonjour Adrien.
Bonjour Louis.
Alors pour nos éditeurs, ceux qui seraient branchés pourraient savoir ce qu'est l'impression 3D, on en parle beaucoup en ce moment, mais quand même, pour certains, ce serait pas mal de nous faire une petite présentation de ce qu'est ce secteur d'activité en pleine expansion.
Ouais, et si ça te va, c'est bien d'un peu resituer d'où ça vient.
Parfait.
C'est-à-dire que l'impression 3D existe dans l'industrie depuis la fin des années 70 quand même. C'était donc pas mal des machines qui valaient entre 30 000, 80 000, 100 000 euros. Donc vous imaginez bien que pas n'importe quelle entreprise avait ces machines-là. Ça servait surtout de prototypage, faire des prototypes de pièces avant la mise en production. Et en fait, ces machines étaient protégées, enfin le principe, c'est-à-dire de faire fondre de la matière et de le déposer couche par couche, était protégé par un brevet industriel. Et ce brevet industriel est tombé dans le domaine public, je ne sais plus exactement, mais vers 2000-2005. Et à partir de là, il y a notamment un universitaire anglais, Adrian Brower, qui s'est dit, donc lui c'était un prof, et il s'est dit, ces machines, c'est pas très compliqué, le principe est pas très compliqué, on fait bouger des moteurs, on vient faire fondre de la matière, on la pousse dans une buse et on vient la déposer couche par couche. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a monté un wiki, c'est comme Wikipédia, c'est-à-dire c'est une page que tout le monde dans le monde peut abreuver, rajouter, mettre ses commentaires, etc. Donc il a commencé à monter un wiki, et là il y a pas mal de gens à travers le monde qui se sont mis à bosser sur cette idée-là. Parce que évidemment le principe est tombé dans le domaine public, mais les industriels qui avaient donc fabriqué ça n'ont pas dit et n'ont pas montré comment on pilotait les moteurs, comment... quel code on envoyait pour faire marcher le système, etc. Et donc, ils sont repartis de zéro. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à bidouiller de l'électronique. Il y a un gars qui s'appelle Marlin, enfin, c'est son pseudo, mais il a commencé, lui, à concevoir le logiciel pour faire bouger les moteurs pas à pas, etc. Et donc, petit à petit... avec l'intervention de pas mal de gens à travers le monde, donc en réseau, liés à ce wiki, ils ont commencé à développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'impression 3D. Et donc depuis 2005, il y a toute une communauté à travers le monde qui s'est développée pour travailler sur l'électronique, sur les programmes qui vont piloter la machine, sur même la structure de la machine, etc. En parallèle, il y avait des Italiens qu'on connaît bien maintenant, qui s'appellent Arduino, donc qui fabriquaient des cartes électroniques à la base pour les laboratoires de recherche, qui avaient besoin de cartes électroniques qu'on appelle ouvertes, c'est-à-dire qu'on pouvait programmer soi-même la carte et qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait comme programme dedans. En fait, une carte électronique comme ça, c'est une carte d'entrée-sortie. Donc elle a des entrées, elle a des sorties, numérique, analogique, et on a un petit processeur dedans dans lequel on met un programme et on va dire tu vas regarder telle sortie, donc ça peut être un capteur de température, ça peut être on peut piloter un moteur pas à pas, etc. Donc ces gens-là se sont dit on pourrait faire des cartes électroniques ouvertes pour monsieur et madame tout le monde, pour des bricoleurs, etc. Et donc toute la communauté qui s'est développée autour de l'impression 3D a commencé à utiliser ces cartes-là. Et à programmer du coup sous langage Arduino, à programmer des cartes pour faire marcher et pour créer des imprimantes 3D. Donc ça, c'était en 2005 jusqu'en fin 2010. Il y a eu plein de gens à travers le monde à du coup concevoir des imprimantes 3D. Aujourd'hui, il y a plus de 200 fabricants dans le monde d'imprimantes 3D en open source, c'est-à-dire qu'ont un cœur électronique qu'on peut modifier, etc. Et du coup, il y a plein de types de machines différents. Voilà, tu as des petites machines, des grandes, qui extraient tel ou tel matériau, etc. Tu as plein de types différents.
Alors justement, décris-nous quand même une imprimante 3D, je dirais basique ou classique. Comment ça marche?
Alors, une imprimante 3D classique, elle a de la matière première sous forme de fil. Donc, ce fil peut être de plein de matériaux différents, mais c'est un fil qui va fondre à une certaine température. Donc, on vient faire fondre ce fil à travers ce qu'on appelle une buse chauffante, donc qui chauffe. Et on vient déposer de la matière donc sur un plateau qui peut être chauffant ou pas. Et du coup, couche par couche, comme ça, on dépose de la matière en montant, tac, tac, tac. Et petit à petit, on obtient une pièce en trois dimensions. Donc là, on est obligé de passer. Donc ça, c'est l'imprimante 3D classique. Après, il y a
Donc il y a
d'autres.
plusieurs axes. Il y a un axe, il y a deux axes horizontaux et un axe
C'est ça,
avec
ouais.
des moteurs qui vont dans tous les sens, quoi.
Ouais, typiquement, on a trois axes, X, Y, Z, comme on apprend au collège ou au lycée. Et cette machine se déplace suivant ces trois axes, ce qui permet d'aller un peu partout dans l'espace. Après, il y a d'autres, sur le même principe, il y a plein d'autres types de machines. Il y a des machines qui vont découper du bois. Donc, on met une fraise à la place de système d'impression 3D. On met une fraise, on vient découper du bois. On peut avoir un rayon laser qui vient brûler du bois et donc le couper. On peut avoir un système, ce qu'on appelle le frittage de poudre, où là, on ne vient pas de déposer de la matière. On a un bac de poudre. Et en fait, on a un laser, souvent un laser au CO2, qui vient brûler la matière, la faire fondre. Et donc là, on peut avoir ce qu'on appelle des pièces vraiment en métal. Donc là, on vient fondre une poudre métallique, couche par couche. Et on vient fondre du métal. Donc on a des pièces métalliques. Voilà, entre parenthèses, cette technologie est passée dans le domaine public début 2015, si je ne m'abuse. Et du coup, on voit déjà apparaître du coup des imprimantes 3D à frittage de poudre métallique dans la communauté du libre. Donc là, ça commence aussi à venir.
Pour les pièces en métal.
Pour les pièces en métal, ouais. Et après, il y a aussi tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a l'industrie aussi alimentaire qui s'empare un peu de ça. Et qui vient extraire du ketchup ou j'en sais rien, qui vient pousser. En fait, c'est une seringue. En fait, on met quelque chose de liquide ou de pâteux dans une seringue et on vient le déposer sur une tartine ou je sais pas quoi, comme un peu la NASA qui a ce projet-là
De pizza
de
pour le
faire des pizzas
ça, dans l'espace.
dans l'espace. Voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais bon,
Bah écoute, pourquoi pas?
pourquoi pas, ouais.
Tu nous as décrit toutes ces machines disponibles. Alors, parle-nous des usages, parce que apparemment, si j'ai bien compris, ils sont illimités ou presque.
Bah, illimité, ça reste un outil. Après, voilà, pour moi, ça remplace pas ni le bois, ni la céramique, ni le métal. Donc là, je vais plutôt parler des imprimantes 3D qu'on a chez Machin Machine, qui sont les plus courantes. Donc, des imprimantes 3D à dépôt de matière. Donc, on vient faire fondre une matière. Donc là, donc les applications, c'était ça la question.
Ouais.
Donc les différentes applications. Le but du jeu, à la base, c'était un peu de pallier à l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on a des appareils, d'électroménager, typiquement, qui est prévu pour casser. C'est-à-dire qu'on a souvent une petite pièce dedans qui va casser au bout de 3-4 ans d'utilisation. Et en fait, c'est fait exprès pour qu'on aille racheter un nouvel appareil, etc. Et donc, c'est un principe industriel
Très controversé
très
d'ailleurs.
controversé. Et c'est un peu pour ça que moi, je me suis intéressé à ça d'abord. C'est pour essayer de trouver un autre moyen de consommer et d'utiliser nos produits. Et donc, un des moyens, bah, c'est de se dire, au lieu que Madame Michemuche aille racheter un robot ménager parce qu'il la petite pièce a cassé, bah, dire bah, si en milieu rural on avait un moyen de pouvoir réparer cette pièce et de la refaire, eh ben, on pourrait, au lieu d'aller à la déchetterie ou de jeter son appareil, on peut le réparer et voilà, c'est reparti. Donc, du coup, c'est une grande part de notre activité, c'est de justement de refaire ces pièces. Alors souvent, c'est des pièces assez complexes, enfin assez complexes dans le sens où on ne pourrait pas la faire en bois ou en métal. C'est des petites pièces souvent techniques, des petits engrenages qui seraient trop compliqués, trop chers à faire autrement. Et là, typiquement, en impression 3D, c'est assez simple. Surtout qu'on a toute une communauté à travers le monde qui échange des dessins. C'est-à-dire que pour faire de l'impression 3D, on est obligé de passer par un dessin. Donc un dessin en 3D sur ordinateur, donc en format informatique. Et ce dessin, on peut le trouver sur des banques de données d'échange de pièces. Par exemple, il y a un site assez connu dans le domaine qui s'appelle Thingiverse, donc c'est un site américain, où il y a plus, aujourd'hui, il y a plus de 40 000 pièces de dessins de pièces sur ce site internet. Donc en gros, concrètement, j'ai par exemple un bouton de gazinière qui est cassé. Ben, je dessine mon bouton pour qu'il s'adapte bien à ma gazinière. Et puis une fois que j'ai dessiné mon bouton, je l'imprime en 3D pour réparer ma gazinière. Et après, ce dessin, il ne me sert plus ou voilà, je l'ai fait une fois. Et ben, je le mets sur ce site internet. Et comme ça, quelqu'un d'autre dans le monde qui a la même gazinière que moi, et ben, il peut juste télécharger ce dessin et l'imprimer chez lui. C'est un peu le principe. Donc ça, c'est le premier usage. Après, on a tout ce qui est prototype. Donc ça peut être un bricoleur passionné qui est en train d'inventer un système. Il a envie de tester ses pièces, de voir ce que ça donne en vrai, avant de pouvoir imaginer de vendre son idée à une entreprise ou de pouvoir fabriquer en plus grosse quantité. Et bien là, typiquement, il peut facilement donc imprimer sa pièce à partir de dessins. Donc là, c'est une autre part. Après, on a des pièces de réparation, tout ce qui est pièces de réparation, donc ça peut être ou de l'électroménager, mais aussi pour des PME. Par exemple, ça m'arrive de refaire des pièces pour des garagistes. Par exemple, un système d'ouverture de fenêtre qui est vendu quand le système est cassé, souvent c'est une petite pièce en plastique qui est cassée. Donc là, au lieu de. Et lui, il est obligé de racheter l'ensemble, qui vaut à peu près 200, 250 euros. Il est obligé de racheter l'ensemble. Et là, du coup, nous, on peut lui dire, attends, c'est pas la peine de racheter l'ensemble. Nous, on peut te fabriquer que la petite pièce qui manque. Donc là, on la redessine. Souvent, ces pièces-là, on les fait plus costauds que l'original. Et du coup, on peut les réadapter à l'ensemble de l'appareil. Et voilà, c'est reparti pour un
Et
tour.
le garagiste fait une économie de.
Ah, le garagiste, il est content, et le client surtout.
Et enfin, disons, au lieu de le vendre 250 euros, il le facture beaucoup
Oui,
moins.
voilà, c'est une pièce qu'on va vendre 10, 20 euros. Et puis voilà, donc c'est plus du tout le même prix pour le client final, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très varié. On fait de la pièce de réparation, on fait des moules aussi pour des artisans chocolatiers, par exemple. Donc,
Ah, très intéressant. La frigoulette, tu veux dire?
ouais, pour une des personnes qui a monté la frigoulette, donc Paul Keruel, où là, ça fait un an qu'on bosse avec lui pour concevoir des moules pour plaquettes de chocolat. Surtout depuis quelques mois, on a un nouveau matériau qui est sorti, certifié alimentaire, sans émanation de bisphénol A, sans styrène, etc. Donc là, en fait, on part d'un dessin, donc un dessin qui est fait par une graphiste. Et à partir de ce dessin, moi, un dessin du coup en 2D, en noir et blanc, avec des niveaux de gris. Et là, à partir de ça, moi, j'arrive à faire un moule. Donc, j'extrais en 3D le noir, je dis qu'il est en haut, par exemple, et le blanc en bas. Donc, plus on va être noir, plus on va être haut, donc plus on va avoir du volume. Et à partir de ça, on peut créer, du coup, des plaquettes de chocolat à thème. Voilà, par exemple.
Mais tu as créé le moule, vous n'avez pas mis dans le moule par imprimante 3D le chocolat, quand même, si?
Non, ça, on avait regardé ça au début. En fait, Paul avait commencé à penser à ça. Donc du coup, j'ai fait de la veille techno là-dessus, regarder ce qui se faisait dans le monde, etc. Donc ça existe. Il y a des machines donc avec une petite seringue qu'on remplit de chocolat chaud et on vient déposer du chocolat. Mais en fait, on peut pas aller très haut, c'est assez lent. Et du coup, c'est plus intéressant de faire un moule et de couler du chocolat dedans. Ça va, voilà, parce que le moule, on le réutilise plusieurs fois. Alors que il faudrait à chaque fois réimprimer sa plaquette de chocolat avec le chocolat. Là, ça prend un temps fou. C'était pas intéressant, quoi.
Justement, petite digression, pour imprimer une pièce, par exemple, de voiture, elle met combien de temps
Ça dépend vraiment de la taille de la pièce. Je sais pas, pour un peu se rendre compte, je reviens à mon bouton de gazinière. Un bouton de gazinière, il y a 1h30 à 2h d'impression. C'est un peu pour se rendre compte en fonction de la taille. Mais le temps d'impression, il dépend de la taille de la pièce.
De sa complexité, peut-être ?
Sa complexité, pas trop, non. C'est vraiment la taille de la pièce et comment on remplit l'intérieur. Parce qu'en fait, on a un logiciel où on coupe en tranches le dessin 3D et on choisit comment on remplit la pièce. Donc en fonction de la résistance qu'on veut, en fonction de la qualité de la pièce, on la remplit plus ou moins. C'est là que le temps change. Et aussi la finesse. C'est-à-dire comme on dépose couche par couche, eh ben les couches, on peut faire des grandes couches de 0,2, 0,3 mm ou des petites couches de 0,06 mm au plus petit. Et là, on a quelque chose de très très fin, mais qui met beaucoup plus de temps qu'avec des grosses couches. Donc voilà, c'est en fonction de ça que le temps est déterminé.
Si j'ai bien compris, ça veut dire que tu peux jouer sur la densité de la matière. C'est-à-dire faire quelque chose de plus ou moins léger, plus ou moins massique.
C'est ça, ouais. Plus ou moins costaud, plus ou moins dense. Donc on peut régler tout ça, ouais.
On continue sur les usages et même peut-être, par extension, peut-être des usages qui peuvent paraître saugrenus que tu ne fais pas. Mais moi, j'en ai entendu certains qui sont absolument fascinants. Par exemple, ne serait-ce que sur les projets d'habitat sur la Lune ou sur Mars, ils pensaient envoyer tout simplement l'imprimante 3D sur la planète en question et puis à partir même des matières du sol, fabriquer des igloos, quoi. Enfin, des trucs comme ça, non ?
Ouais, bah alors ça, c'est
de la science-fiction.
C'est de la science-fiction, oui et non. Il y a un jeune, il y a quelques années, qui avait inventé, donc c'est un peu la technique de frittage de poudre, c'est-à-dire qu'on a une réserve de poudre qu'on vient faire fondre avec un laser. Et je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait inventé donc, une machine comme ça, qu'il avait amenée au Sahara, et donc il avait rempli des bacs de sable, et juste avec l'énergie solaire. Donc il avait concentré l'énergie solaire, donc il avait fait un rayon laser qui venait faire fondre le sable. Et comme ça, couche par couche, il arrivait à faire des pièces, du coup, avec le matériau qu'il y avait sur place, c'est-à-dire le sable, il arrivait à faire des pièces en trois dimensions. Donc c'est un peu dans cette idée-là que la NASA ou d'autres se disent on ferait mieux d'amener plutôt une machine sur la Lune et puis de faire fondre le sable lunaire sur place avec l'énergie solaire pour faire des pièces.
Donc des habitats étanches.
Donc des habitats, voilà, par exemple. Ouais. Bon, c'est pas les mêmes machines, c'est des machines beaucoup plus grosses, un peu comme ce qu'ils font en Chine. C'est vraiment des grosses machines sur portique. Et là, on vient, en fait, comme un peu la grosse bétonnière ou la toupie qu'on connaît chez nous, on peut avoir un gros tuyau pour aller déverser du béton quelque part. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf que le tuyau, il est dirigé par une machine. Et du coup, il dépose couche par couche des couches de béton. Et donc là, ils arrivent à faire des maisons en trois dimensions.
Ouais. C'est une grosse machine, alors.
Oui, très grosse.
Et alors aussi, dans les usages saugrenus, hein, je ne sais pas si tu as entendu parler sans doute de cette polémique de ce jeune Américain qui avait réussi, alors tout à l'heure on n'était pas tout à fait d'accord, mais bon, en tout cas à faire une arme indétectable au portique de sécurité des aéroports, parce que à part le percuteur, je crois qu'il était encore en métal, et peut-être la balle, l'arme était en plastique.
Ouais, il restait, donc il a réussi à faire, donc il a fait une arme en impression 3D. Mais voilà, il n'y avait pas. Donc moi, je pensais qu'il n'y avait pas le tube, donc le tuyau qui permet à la balle de sortir. Donc s'il est en plastique, je pense que ça ne doit pas aller loin et que ça doit être du coup un usage unique. Et effectivement, oui, il ne fait pas la balle, il ne fait pas le percuteur. Et ce jeune en question, il avait deux choix, c'était ou de partir en prison ou de monter une entreprise de fabrication d'armes légales. Et du coup, aujourd'hui, c'est un fabricant d'armes à part entière.
Donc il fournit des armes qui sont difficilement détectables dans les aéroports en particulier.
Ouais, mais comme on pourrait le faire en bois avec son tour à bois, on pourrait se faire une crosse de la même manière. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi derrière, oui, l'impression 3D permet ça, mais c'est important de se rendre compte que c'est qu'un outil. C'est vraiment apprendre et savoir à quoi on s'en sert, pourquoi on s'en sert, etc. Avec ta perceuse et ta mèche à bois, tu peux aller tuer ton voisin sans problème. Même avec ta fourchette que tu te sers pour manger, je pense que tu arriverais à tuer ta voisine si tu le voulais, quoi. Donc c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait d'un outil qu'on a dans les mains, quoi.
Et alors, cite-moi encore quelques usages que permet cette nouvelle technologie.
Eh bien, comme usage, par exemple, il y a tout ce qui est dans la santé, par exemple des prothèses. Aujourd'hui, faire une prothèse sur mesure, par exemple quand on a perdu une main ou des choses comme ça, ça vaut assez cher. Et là, il y a pas mal de gens, souvent qui avaient de la famille, qui avaient besoin de prothèses, etc., qui se sont mis à dessiner des prothèses en 3D qui étaient adaptées à un jeune homme ou à quelqu'un. Et du coup, ça leur a permis de faire des prothèses du coup à pas cher et qui étaient adaptées vraiment à la personne.
Mais ça se limitait à quelque chose d'inerte ou c'était quand même dynamique avec...
Non, il y a vraiment des prothèses dynamiques qui commencent à se faire.
Ils peuvent jouer au piano après, quoi.
Ouais, je ne sais pas encore, peut-être, mais en tout cas, c'est en cours et il y a des gens qui bossent là-dessus dans la communauté open source et qui arrivent à des super résultats, quoi.
En fait, ce que tu m'as décrit, c'est quand même des pièces assez simples, à part ces prothèses qui sont un assemblage de diverses pièces, sans doute fabriquées différemment, puis assemblées par la machine 3D. Mais est-ce qu'on peut faire des pièces compliquées, voire composites ? Par exemple, tu parlais de ces cartes ouvertes Arduino. Est-ce qu'on peut commencer avec des imprimantes 3D à faire, je sais pas moi, un aspirateur comporte un certain nombre de dizaines de pièces quand même. Est-ce que tu peux envisager de faire des outils compliqués, divers, avec une imprimante 3D ?
Oui, bien sûr, on n'est pas vraiment limité en complexité, sachant qu'on peut faire des pièces qui ont des vides à l'intérieur, des engrenages complexes, on peut faire plein de types de pièces techniques compliquées et les assembler après pour faire un outil complexe. Après, on fera pas la carte électronique, on fera pas les fils électriques, on fera pas les moteurs. Voilà, il y a plein de choses qu'on fera pas non plus. Mais tout ce qui est pièces techniques est pas mal faisable en impression 3D, surtout qu'aujourd'hui, on a plein de types de matériaux et des nouveaux types de matériaux qui n'arrêtent pas de sortir. Tous les mois, il y a un nouveau matériau pour l'impression 3D.
Ça peut être quoi, par exemple ?
Aujourd'hui, donc, nous, on utilise surtout ce qu'on appelle le PLA, de l'acide polylactique. Donc, c'est de l'amidon, en fait, c'est souvent de l'amidon de maïs. Donc, on récupère à partir de maïs, on arrive à faire du plastique. Donc sur cette base-là, il y a plein de types de matériaux. C'est-à-dire qu'on peut, on peut acheter des fils avec du bois dedans. Donc il y a un mélange de fibres de bois recyclées avec de l'amidon de maïs. Il y a des fils qui sont faits à partir de paille, donc de la paille broyée qu'on arrive à modifier pour en faire un espèce de fil plastique. Il y a des fils à base de bambou. Donc un mélange pareil, c'est toujours le même principe, un mélange de fibres de bambou avec de l'amidon de maïs. Il y a des poudres de marbre, des poudres métalliques. Donc il y a des fils avec du bronze, avec du cuivre. Donc c'est toujours pareil, on n'a pas une pièce en bronze, on a une pièce avec de la poudre de bronze. Donc on a le poids du bronze, on a l'aspect, mais c'est quand même un mélange de petits morceaux de bronze avec du plastique. C'est pas une pièce en bronze. Donc voilà, après on a des copolyester beaucoup plus rigides qui permettent de faire des pièces techniques qui ont besoin d'être fines et costauds, résistantes, etc.
À chaleur.
À la chaleur, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pièces ? On a des fils donc, qui sont des mélanges de ces matières, donc de ces copolyester avec de la fibre de carbone, par exemple. Donc aujourd'hui, je peux imprimer, on peut imprimer des pièces en fibre de carbone. Par exemple, on a des matériaux qui sont très glissants, donc on peut faire des paliers ou des roulements complètement en plastique. Donc voilà, on a des fils, on a plein de sortes de fils. Il y a même des Bretons là qui sont en train de sortir un fil à base d'algues. Donc ils font des cultures d'algues en bassin et ils arrivent après à extraire cette algue et à en faire du plastique.
Pour un usage alimentaire ?
Non, pas spécialement. C'est pour faire un plastique qui est fabriqué à partir d'algues et pas à partir de la pétrochimie.
Et alors, machine, tout à l'heure tu nous as bien spécifié, mais on pourrait y revenir, que machine se spécialisait dans un certain nombre de domaines. Tu ne vas pas effectivement te lancer dans la fabrication de maisons individuelles.
Non.
Mais ceci dit, est-ce que justement tu pourrais maintenant nous présenter ton association ? D'ailleurs, elle est née quand ?
Alors, cette asso, elle est née en 2013, donc par deux personnes qui ne connaissaient pas trop l'impression 3D, mais qui avaient envie un peu d'apporter des moyens de production en milieu rural pour notamment combattre l'obsolescence programmée ou plutôt apporter des solutions à l'obsolescence programmée. Moi, en fait, j'ai un passé dans l'industrie automobile où je programmais les robots industriels qui soudent les voitures, etc. Et du coup, je me suis vachement intéressé à ça. Et du coup, moi, aujourd'hui, je suis salarié de l'association. Donc, le but de l'asso, c'est d'amener des savoir-faire, des connaissances et des outils et de les partager. Donc, à partir de là, l'imprimante 3D est un outil de fabrication au niveau local, qui plus est en milieu rural. Voilà, c'est une partie. Et après, l'idée, c'est de se servir de ces outils pour faire des systèmes plus complexes. Par exemple, on a travaillé cet été avec une asso parisienne qui installe des panneaux solaires. On a travaillé sur un tracker solaire. Donc un tracker solaire, c'est un système qui suit le soleil. Et donc, par exemple, on peut mettre un panneau solaire qui va suivre le soleil, qui permet d'avoir un meilleur rendement sur son panneau solaire. On peut mettre un four solaire qui va toujours se diriger face au soleil. Ou un système qu'on appelle système héliostat, qui est en fait un miroir. Donc on oriente un miroir pour qu'il y ait toujours de la lumière sur un bâtiment qui est placé au nord, par exemple, ou qui n'a pas de lumière. Donc ça, c'est des systèmes qui sont fabriqués avec. Donc il n'y a pas que Machin Machine, il y a d'autres gens, il y a d'autres des entreprises. Donc nous, on conçoit l'ensemble, donc on fait aussi de l'électronique, du coup, toujours en open source, et aussi des PME qui vont, elles, faire le bâti en métal, etc.
Vous étiez donc un projet mutualisé avec plusieurs
Voilà,
acteurs.
c'est un peu l'idée dans Machin Machine, c'est de mutualiser les compétences, les idées pour faire des choses en milieu local avec d'autres gens. Donc, tracker solaire, là on bosse avec une asso de la vallée pour tester des petites éoliennes à axe vertical. Donc, le but serait de fabriquer des petites éoliennes pour aller vers l'autonomie d'une maison. Donc, là c'est pareil, on travaille à plusieurs là-dessus. On bosse aussi, on est en train de monter un projet de recyclage, c'est-à-dire là on est en train de monter un dossier. Pour aller chercher des subventions, du coup, pour étudier la faisabilité de recycler des déchets, c'est-à-dire travailler avec les déchetteries, trier les plastiques, et avec un partenaire industriel, pouvoir récupérer ces plastiques et en refaire de la matière première pour refaire des objets. Donc c'est un peu du déchet à l'objet, au niveau local, comment on peut recycler nos déchets pour en faire des objets. Voilà, c'est le genre de projet sur lequel on bosse. Ouais.
Si je comprends bien, ton activité n'est pas que dans la production, elle est aussi donc dans la conception. Et ça veut dire que vous avez des compétences assez variées, enfin toi et peut-être...
Ouais, on a des bénévoles qui s'investissent dans l'asso, qui sont ingénieurs de formation, qui ont travaillé dans l'industrie, qui ont travaillé dans divers domaines et qui amènent et qui partagent leurs compétences au sein de l'association. Ouais.
En tout cas, il y a quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure et qui m'interpelle, c'est au niveau de la conception des objets. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai fait appel à tes services il y a à peu près un an où j'avais un bouton plastique sur le robinet de ma douche qui était cassé, le filetage était élargi, donc je ne tirais plus le bitonio, quoi. Je t'ai amené ce bitonio. Tu n'avais pas de plan, c'était un truc assez standard. Comment vous avez fait pour recréer à l'identique cet objet? Vous l'avez scanné avec un scan 3D?
Alors pour faire un objet, donc pour dessiner l'objet, en gros, on a trois solutions. Ou on trouve cet objet qui a été dessiné par quelqu'un. Donc c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Tu as des sites internet où on peut échanger les pièces et on peut aller voir si quelqu'un a fait ce bouton de ton robinet. C'est la première chose que j'ai fait. Je suis allé voir si quelqu'un l'avait dessiné. Donc là, personne ne l'avait dessiné. Donc après, où on passe au scanner 3D. Donc là, pour l'instant, à Machin Machine, on n'a pas de scanner 3D. Si on a vraiment besoin d'aller scanner une pièce, on peut aller au Fab Lab de Cré, par exemple, où ils possèdent un scanner 3D. Et la troisième solution, c'est de dessiner la pièce. Donc là, on a des logiciels, donc logiciels techniques, qui permettent de dessiner en 3D. Donc là, typiquement, on mesure. Donc on prend des mesures de ta pièce et puis on la dessine en trois dimensions et là, on peut la fabriquer après.
C'est pas trop de temps passé, ça, que c'est complexe.
Non, c'est assez simple dans le sens où, par exemple, ton bouton, c'était des cylindres avec un pas de vis. Nous, on travaille avec un logiciel en open source, donc on est toujours dans la communauté du libre, qui s'appelle OpenSCAD. du fait qu'ils soient libres, il y a plein de gens à travers le monde qui font ce qu'on appelle des librairies. C'est-à-dire tout ce qui est filetage, tout ce qui est engrenage, etc., a déjà été conçu et dessiné par des gens. Et du coup, on a juste à rajouter nos valeurs. Donc, on mesure le filetage, il fait tant de haut, telle profondeur, etc. On rentre nos valeurs et hop, on a un filetage qui s'affiche. Donc après, c'est assez simple. Et à partir de là, on arrive à dessiner, bien sûr, avec un peu d'expérience, on arrive à dessiner assez facilement tout ce qui est pièces techniques.
Donc tu me dis, Macha Machine a démarré en 2013.
Ouais.
Quels ont été les gens ou les structures qui ont fait appel à toi depuis 2 ans?
Eh bien, des particuliers, beaucoup de particuliers pour réparer notamment l'électroménager. Des bricoleurs qui voulaient faire des pièces de leur conception, faire des petits prototypes, et des entreprises qui veulent réparer quelque chose ou qu'ils trouvent plus dans le commerce, ou un vieux système, par exemple des outils qu'ils utilisent qui sont assez anciens et dont il y a une pièce plastique qui casse dedans, etc.
Ça, c'est courant, et tu as souvent des demandes?
Ouais, toutes les semaines j'ai des demandes, ouais, ça c'est assez courant.
Donc les gens, ils doivent être super contents de pouvoir réparer des trucs peu.
Ouais, et puis chez, près de chez eux, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller.
Et somme toute, tu as des tarifs très raisonnables?
Ouais, bah, on a une politique tarifaire, on est une asso. On a une politique sur tout ce qui est réparation de pièces comme ça, politique de prix assez bas, pour pouvoir juste passer un peu le but de l'asso, c'est de promouvoir ces choses-là. Et avec les bénéfices, nous permettent de faire des projets un peu plus sociaux. C'est-à-dire que les bénéfices sont réinjectés dans des projets sur lesquels on gagne beaucoup moins d'argent. Par exemple, on a accompagné les collégiens, 7 collégiens du collège de Die, donc qui avaient été repérés, ce qu'on appelle un décrochage scolaire, donc qui avaient du mal avec les enseignements, etc. Et on les a, donc avec le centre social, on a monté un projet où on les a accompagnés pendant 6 mois à fabriquer 2 imprimantes 3D pour le collège. Et ils venaient tous les vendredis à l'atelier, et petit à petit, on a construit 2 machines pour le collège. Et ce qui leur a permis de travailler en groupe, de décider ensemble comment on allait faire la machine, quelle forme on allait lui donner, quelle couleur on a choisi, comment on monte. Ils ont fait de la soudure, ils ont fait du montage. Voilà, on a fabriqué les pièces avec eux, on leur a appris comment on passait du dessin à la réalisation, etc.
Et ce sont des imprimantes d'une taille raisonnable?
C'est des petites imprimantes qui font 20 cm sur 20 cm sur 20 cm. En gros, donc elles peuvent imprimer des pièces qui font moins de centimètres de haut, quoi.
Comme les tiennes, elles font quelle taille?
Oui, c'est les mêmes, ouais. Ouais, c'est le même principe.
Parce qu'au-delà, c'est peut-être plus compliqué ou il y a moins d'usage?
Au-delà, en fait, il faut avoir un bâti plus costaud, des tiges plus grosses. Après, oui, c'est possible, bien sûr. Après, ce n'est pas le même coût. Et puis, il faut en avoir l'utilité. Si on veut vraiment des pièces plus grandes, et ben on les fait faire au Fab Lab de Cré, par exemple, où ils ont des imprimantes plus grosses. Après, il y a encore Barthélémy, la fonderie à côté de Cré, Barthélémy Art, qui a la machine la plus grosse en Europe, je crois, qui fait 1 mètre, qui peut imprimer des pièces d'un mètre sur 1 mètre et 1,20 m de haut. Et d'ailleurs, ces machines sont fabriquées dans la Drôme, à Aurel. Par l'entreprise, mais 4D.
Cette machine, elle est censée faire quoi alors?
Donc c'est une imprimante 3D qui imprime sous forme de plastique ou de PLA, comme les miennes, sauf qu'elles peuvent imprimer des pièces d'un mètre sur 1 mètre et 1,20 m de haut.
Parce que quand on pense à la fonderie Barthélémy qui coule des bronzes, on aurait pu se dire qu'ils allaient justement inonder le marché de répliques de sculptures reconnues.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu fais, toi, à Macha Machine, pour sensibiliser les habitants du Diwa à ces nouvelles possibilités, parce que ça se sait peut-être dans un certain cercle? Est-ce que tu as pu t'apercevoir, toi, que les gens te connaissaient vos propositions, et qu'est-ce que tu fais pour que ça se répande?
Alors déjà, on est placé en centre-ville au sein d'un espace de coworking, donc qui s'appelle l'atelier, et j'ai mis mes machines en vitrine, et puis on organise des stages d'initiation à l'impression 3D où on peut venir apprendre à se servir des machines, comment faire, les différentes suites de logiciels. Et on fait aussi de la formation au dessin 3D. Donc on peut venir apprendre à dessiner en trois dimensions sur logiciel libre. Et j'accompagne aussi les gens à fabriquer leurs propres machines. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai des bricoleurs qui viennent apprendre à fabriquer la machine avec souvent avec leur enfant, leur ado. Et donc en famille, ils viennent fabriquer leur machine pour ramener chez eux.
On s'oriente vers un monde où tout le monde aura sa propre imprimante 3D.
Ouais, c'est ce que voudrait la grosse industrie, parce que depuis quelques années, donc les gros industriels qui fabriquent nos imprimantes 2D d'aujourd'hui se sont dit, ah, il y a un super marché à faire, on va reprendre tout ce qui a été développé dans la communauté du libre et on va faire des machines pour monsieur, madame, tout le monde. Ça fait quelques années qu'ils ont pas mal communiqué sur le fait qu'ils allaient sortir une machine tout public à moins de 300 € pour février 2015. Donc on est en octobre et on l'a pas vu sortir. Après, moi je vois pas trop l'utilité que tout le monde en ait chez soi. Enfin, faut vraiment en avoir besoin quoi. Si c'est pour la laisser dans un coin et faire une pièce tous les 6 mois,
Ouais, non, mais si elle est capable de te faire ta pizza quand même.
ce sera pas la même machine. Puis je préfère aller chez le pizzaïolo du coin quand même.
Non, mais pour les gens qui n'aiment pas se faire à manger, ça peut être.
Ouais, pourquoi pas. Après, voilà, ça reste un outil, savoir ce que t'en fais, quoi.
Tu en fais souvent de ce genre de module de formation?
Eh ben, j'en fais régulièrement et souvent sur demande, en fait. Les gens passent, ils me disent, ah, bah, moi, j'aimerais bien faire ça, je le note. Et puis, du coup, ils me disent un peu leur dispo. Et puis, du coup, j'appelle après les gens qui veulent le faire. Et puis, on se met d'accord sur une date qui va à tout le monde.
Avoir un certain bagage intellectuel ou est-ce que c'est accessible à tout le monde?
Non, le stage d'initiation, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, il y a des jeunes à partir de 12 ans qui viennent, c'est pas un problème. Donc, c'est vraiment de l'initiation. Après, le stage de dessin 3D, donc sur OpenSCAD, il faut déjà un peu être familiarisé avec l'informatique. Mais il y a des jeunes de 12 ans qui sont venus aussi, ça dépend vraiment de son affinité avec l'informatique, quoi.
Et leur motivation peut-être.
Et leur motivation, bien sûr.
Ce sont des modules qui peuvent durer combien de temps alors?
Donc le stage d'initiation, ça dure 2 heures. Et le dessin 3D, donc le niveau 1, module de 3 heures. Donc en 3 heures, on apprend à dessiner, on se familiarise avec le logiciel et on fait un essai donc avec une pièce qu'on amène ou avec des pièces que j'ai à l'atelier et puis on les dessine et je les accompagne à dessiner leurs pièces.
Et après, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton sur l'imprimante 3D pour que ça démarre, c'est ça?
Presque. Là, on a le dessin 3D. Après, il faut le passer dans un logiciel qui va couper couche par couche. Après, on le met dans la machine. Ouais.
Enfin, pour terminer, Adrien, vous vous en sortez point de vue financier. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un décollage de la demande? Est-ce que tu arrives à assumer ton salaire, par exemple?
Bah, écoute, on a commencé il y a 1 an et demi. Ça commence à décoller. Ce qui nous aide à nous développer, c'est vraiment le fait d'être donc en centre-ville, dans un espace de coworking, donc avec d'autres gens qui créent des synergies, on monte des projets ensemble, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, au niveau de trésorerie, moi, je suis embauché donc en contrat aidé. Et typiquement, sans contrat aidé, on n'aurait pas pu démarrer l'activité comme on l'a fait, ça c'est sûr. Et pour la suite, pour l'instant, on n'a pas assez de trésorerie pour embaucher quelqu'un sans contrat aidé. Mais voilà, petit à petit, ça se développe et puis on espère continuer à pouvoir se développer pour embaucher les gens sans contrat aidé, du coup. Mais peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après, on va voir.
Est-ce qu'on peut te suivre sur un support de communication efficace? Est-ce que tu as un site internet?
Alors, on a un site internet qui est un peu moche, qui est un peu nul, qui est un peu la vieille technologie. Donc, qui est machin au pluriel tiret machine au pluriel.com. On est en train, donc, du coup, avec certains bénévoles, de rebosser sur la com et pour refaire un beau site internet, etc. Mais pour l'instant, enfin, c'est en cours.
Alors pour terminer, pour les gens qui souhaiteraient faire appel à tes services, quel est le moyen le plus efficace
Le moyen le plus efficace,
de
c'est
te
de venir
contacter?
à l'atelier, aux 3 places du marché, à Die.
Et peut-être un numéro de téléphone?
Ouais, donc le téléphone, le 06 26 67 26 10.
Donc pour tous les gens qui ont quelque chose à laquelle ils tiennent, mais qui est compliqué à réparer, mais ce serait pas si compliqué que ça parce qu'il n'y aurait qu'une petite pièce cassée.
Voilà,
Voilà votre
eh bien, tu
solution.
viens de me voir.
Merci
avec
Adrien.
plaisir. Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. L'interview du jour.